Chapitre 7. Ayant mis sa charrette à l'abri sous la remise, Manuel entra dans la maison en quête de la jeune fille. « Elle était en haut, lui dit la mère Salomé. » Manuel monta donc et frappa à la porte de pierre qui ne lui était jamais interdite. Quand il entra, Jonquille rougit subitement et voulut sortir. Depuis plus de 8 jours, Manuel l'évitait manifestement. Elle mettait son point d'honneur à faire de même. « Ne vous en allez pas, dit le jeune homme, c'est à vous qu'il faut que je parle. » Elle se rassit. Manuel s'approcha de Pierre, en qui il espérait trouver un allié, et lui posa doucement la main sur l'épaule. Il sentait son cœur battre jusque dans sa bouche. Emporté par l'activité fiévreuse des dernières journées et par son impatient désir de terminer les préliminaires le plus tôt possible, il ne s'était pas demandé un instant de quelle manière il poserait la grande question. Maintenant, en face de Jonquille, qui ne l'encourageait même pas d'un regard, elle baissait les yeux obstinément, il ne savait comment s'y prendre. C'était bien simple pourtant, il avait au bout de la langue 2 mots qui en valaient d'autres. Mais les jeunes filles aiment peut-être qu'une demande en mariage revête une forme spéciale, comme un caramel qu'on enveloppe de papier doré. Manuel, avec une gaucherie qui n'était pas sans une teinte de courtoisie instinctive, se décida à improviser un discours. Pierre le regardait avec étonnement. Jonquille sentait venir quelque chose, elle ne baissait plus les yeux, mais se tenait très droite, la tête tournée vers la fenêtre, laissant voir seulement le gracieux contour de sa joue, sa petite oreille à demi cachée sous des boucles emmêlées et les lignes sveltes de son cou. Manuel la regardait. Il n'avait jamais beaucoup rêvé à la femme idéale, mais il savait maintenant pourquoi aucune jeune fille ne lui avait effleuré le cœur, c'est qu'aucune n'était Jonquille. Il la trouvait belle sans analyser son charme. Elle était sauvage et fière, ce qui la rendait doublement désirable à ses yeux. Elle était pleine de contrastes, énigmatique, provocante, elle le repousserait peut-être. Cette pensée lui donna tout à coup l'ardeur de l'assaut. Il était né lutteur. Mademoiselle Jonquille, sa voix s'éleva tout à coup, un peu trop solennelle peut-être, mais mâle et résolue. « Je vais vous dire comment cela s'est fait. Vous savez de quoi je veux parler, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Jonquille, qui eût dit non si elle avait été une jeune fille bien élevée. « La première chose, reprit le jeune homme, était d'avoir une entreprise à moi. Je l'ai et elle marchera, n'ayez crainte. Constant et furieux, mais je m'en soucie comme d'un vieux bouton de guêtre. C'est-à-dire, fit-il embarrassé et sentant qu'il s'écartait du genre oratoire, je... Suffit, nous ne parlons pas de lui. Mademoiselle Jonquille, je suis maintenant un garçon établi, la besogne ne me fait pas peur. Quand mes outils seront vendus, j'aurai avec mes économies presque 300 francs à moi. Je risque tout dans mon entreprise. Avec 4 ou 5 expéditions par semaine et en transportant mes propres marchandises, je gagnerai bien 40 francs. Il s'arrêta, attendant quelques signes d'encouragement. Mais Jonquille persistait à détourner la tête. Manuel dut se résigner à poursuivre en essuyant son front du revers de sa main, car ce discours était une rude besogne. « J'ai aussi des meubles à moi. »« Qu'est-ce que ça me fait ?» s'écria Jonquille en l'interrompant brusquement. « Vos meubles et vos économies et vos 40 francs par semaine, est-ce que ça me regarde ?» « Mais oui, dit-il gravement, car je vous les offre en vous demandant d'être ma femme. » Il fut très étonné de voir qu'elle se mettait à rire. « Vous auriez dû commencer par la fin, dit-elle. » Pierre semblait beaucoup plus perplexe et plus ému que sa sœur. « À présent, Jonquille, reprit Manuel, donnez-moi réponse, s'il vous plaît. Je vous ai dit honnêtement ce que je peux vous offrir. Je vous aime depuis 10 jours. » Avant ça, je vous trouvais déjà très charmante. Je m'y prends mal pour vous le dire, c'est que j'ai moins que vous l'habitude de ces choses, apparemment. » Il lui jeta un regard plein de fierté et de reproche. « Apparemment, répondit-elle avec un sourire qui retroussa sa lèvre un peu moqueuse. On dirait que vous en êtes à votre première demande. » Manuel continuait à la regarder et, à chaque minute, sentait qu'il l'aimait un peu plus fort. Réponds-lui, Jonquille, je t'en prie, dit Pierre. Il y va de grand sérieux. Pourquoi te moques-tu de lui ? Sa sœur lui caressa doucement la joue et resta silencieuse un instant. « Réponds pour moi, » fit-elle tout à coup. Manuel vit une rougeur subite monter à ses joues, envahir à la fois ses tempes et son cou, sous les tresses ébouriffées de ses cheveux noirs. Pierre fixait sur elle son regard sérieux, toujours un peu triste. « Elle veut réfléchir, » dit-il enfin en se tournant vers Manuel. Elle vous prie d'attendre jusqu'à ce soir et de l'excuser si elle a ri. Au fond, elle sait bien que c'est une chose sérieuse. » Jonquille ne protesta pas. Seulement, elle détourna de nouveau la tête et Manuel sortit. Alors Jonquille revint s'asseoir auprès de son frère. Elle appuya son front tout près de lui sur le dossier du vieux fauteuil. « Je crois que je dirai oui, » murmura-t-elle. « Pourquoi ne pas le lui dire tout de suite ?» Parce que je l'aime, vois-tu, et qu'en même temps j'ai peur de lui. »
Peur de lui ?
Je n'ai jamais obéi à personne, poursuivit-elle, et il ne saura pas en être patient, je le sais. S'il avait voulu se taire encore un peu et attendre, j'aurais pu devenir docile avec le temps. Pierre, fit-elle après un instant de silence, crois-tu que je puisse faire une bonne femme ?
« Tu es une bonne sœur, » répondit-il doucement.
Ni l'un ni l'autre n'ajouta rien. Jonquille s'accouda à la fenêtre qui donnait sur la rivière et resta longtemps plongé dans la contemplation de cette eau qui s'écoule comme s'écoule la vie. Tandis que Manuel présentait sa demande, Constant Loiseau arrivait. Il était temps, pensait-il, qu'il jetât un coup d'œil à ses affaires. Un gamin le précédait en poussant une charrette remplie de colis. Lorsque Constant aperçut sous la remise ceux de Manuel, il devint instantanément bleu de rage. Son premier mouvement fut de pincer quelqu'un. Saisissant par le bras l'innocent garçon effaré qui s'apprêtait à décharger la marchandise, il lui enfonça ses doigts dans la chair tout en montrant les dents comme un chien hargneux. Mais déjà, Constant Loison avait emmagasiné sa colère pour une meilleure occasion. « Je t'ai fait mal, mon garçon, » dit-il avec sollicitude. « C'est un mouvement nerveux qui me prend de temps en temps. Il faut alors que je serre quelque chose. »«
Vous devriez bien pincer le timon de la charrette quand ça vous prend, » grommela sa victime en se frottant le bras.
Les colis étant déchargés, Constant Loison rejoignit ses associés qui flânaient dans la cour. Il ne dit rien, mais il avait l'air, pensa Firmin Mitou, aussi menaçant qu'un canon chargé.
Il y a du nouveau, cria l'un des contrebandiers. Manuel se fatigue d'être piou-piou, il veut passer général.
Général sans soldat, grommela Firmin. Ce n'est pas moi qui emboîterai le pas derrière lui.
N'importe, fit Constant les dents serrées. Il vous passera sur le corps, à vous comme à moi. Il vous mangera la laine sur le dos. Allez, mes braves!
« Comment ça » s'écrièrent-ils.
« C'est un ambitieux, un aval royaume. J'aurais dû le savoir avant de l'enrôler et j'en suis puni rudement. Quant à moi, je suis flambé. Vous, ça ne tardera guère. »«
Explique-toi, » dit Firmin Mitou. « N'essaie pas de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. »
Constant Loison sentit qu'il fallait frapper un grand coup.
« D'abord, » reprit-il, « ce dernier venu, ce blanc-bec,
« il a plus de moustache que toi, » interrompit Firmin.
« Nous filoutera Jonquille, » poursuivit Constant sans se laisser dérouter.
C'était au hasard qu'il parlait.
Il ignorait que Manuel eut plus de chance qu'aucun autre de gagner le prix auquel tous aspiraient, mais il savait qu'il toucherait ainsi le point sensible. On se pressa autour de lui.
« As-tu vu quelque chose ? Est-ce qu'il lui fait la cour ?»«
S'il lui fait la cour, parbleu !»
« Il l'a !»«
Suffit, je n'entrerai pas dans tous les détails. »
Constant avait trop de prudence pour inventer des anecdotes qui eussent pu recevoir un éclatant démenti. Mais cette réticence enflamma en même temps les curiosités et les colères.
« Il a des avantages, » reprit l'orateur en homme qui veut être impartial. « Il est beau garçon, plus beau qu'aucun de nous. »
« Parle pour toi, tête de veau !» s'écria Firmin, profondément blessé dans son amour-propre. avec ses yeux protubérants, bordés de cils fauves, et l'air bonasse qu'il se plaisait à prendre, Constant Loison méritait assurément cette épithète pittoresque. Tout le cercle se mit à rire bruyamment. Pour le coup, le loup sortit de sa peau d'agneau.
« Riez, riez, imbécile !» cria Constant exaspéré. « Par ma foi, vous méritez ce qui vous pend à l'oreille. Quand Manuel Vincent aura tout le commerce entre les mains, qu'il sera capitaine de la bande, libre de faire la pluie et le beau temps, de vous congédier comme des chiens, et quand, par-dessus le marché, il tiendra Jonquille, vous rirez alors, grand niais !»
Un murmure de consternation et de colère passa autour de lui. Il reprit
« Avec moi, vous n'aviez rien de pareil à craindre. Je ne suis pas un coureur de montagne, je devais m'en remettre à vous. Ce n'est pas moi qui vous tenais, bien au contraire. S'il vous avait plu de faire grève, j'étais légume. Manuel Vincent, lui, peut faire marcher son trafic sans vous, à la rigueur. Vous verrez, mes gars, vous verrez. Il nous a mis la tête dans un sac, nous sommes pris. »
Arsène Leroux secouait la tête.
« Comprends pas, » murmura-t-il.
Grâce à la lenteur de ses conceptions, les prophéties vagues qui excitaient le courroux de ses camarades ne l'affectaient en aucune manière.
« Manuel est un bon garçon, » fit-il sentencieusement.
Firmin trouvait aussi que les discours de Constant Loison manquaient de clarté.
« Or ça, camarade, » fit-il en se plantant au milieu du groupe, la pipe aux dents, « je me donne la parole. M'est avis que l'honorable Préopinant en a joui assez longtemps. » Pour moi, je ne vois point de logique dans son bagout, et la logique, voyez-vous, c'est la première chose, c'est ce qui distingue l'homme des autres animaux. Moi, par exemple, j'ai de la logique, je sais poser un raisonnement en trois termes, comme ceci. Ceux qui font de la contrebande sont des contrebandiers, or nous faisons de la contrebande, donc nous sommes des contrebandiers. C'est prouvé. Maintenant, suivez-moi bien. Que Manuel se mette à son compte, ça me déplaît, ça rompt l'égalité. Or, l'égalité est un des principes de notre glorieuse révolution. Liberté, égalité, fraternité, et vive la République. Mais en quoi ça nous empêche, nous, de continuer notre petit commerce, comme par le passé, c'est ce que je ne vois pas. Que l'honorable Préopinant s'explique. Mais tous les yeux se tournèrent en cet instant vers le seuil de la maison où Manuel venait de paraître. Il remarqua bien qu'on se taisait à son approche et que des regards enflammés se fixaient sur lui. Cependant, son propre trouble l'empêcha d'y porter grande attention. Il avait besoin de solitude, il sentait dans sa tête comme un tourbillon. Comment supporterait-il les heures d'attente que Jonquille lui imposait? Et quelle serait sa réponse? Quand on demande à réfléchir, c'est qu'on veut trouver des formes pour envelopper un refus. Ne pouvait-elle dire non si ce mot était sur ses lèvres? Craignait-elle qu'il ne la suppliât? Elle se plaisait à le faire souffrir. Il repassait en esprit tous les mots de ce discours qu'il avait voulu faire respectueux et loyal et qui n'avait réussi qu'à la divertir. « Si l'occasion revient, je parlerai autrement, » se disait-il. « Je lui montrerai bien que je ne suis pas aussi souple qu'une branche de saule. Elle ne pourra pas m'enrouler autour de son petit doigt. » Mais tout à coup, au milieu même de son amertume, montait une vague d'amour qui lui brûlait le cœur. Il parcourait le sentier avec une agitation fébrile, derrière le voile d'arbre qui lui cachait la rivière et la maison de Jonquille. Il s'asseyait un instant au bord du chemin pour retrouver un peu de calme, mais l'immobilité lui devenait bientôt insupportable. Il reprenait sa marche sans but, appuyant de temps en temps son front contre le tronc lisse d'un hêtre et murmurant des mots passionnés. « Jonquille, Jonquille, je la veux, mais elle est faite de caprices. N'importe, je la veux, je l'aurai. » « Jonquille, ma charmante, et tant d'autres la veulent, la regardent, et comme moi la trouvent belle, et même le lui ont dit, les insolents !»
Il serrait les dents et pâlissait, tant son tourment jaloux était cruel. Son amour pour Jonquille avait éclaté comme un incendie, ou plutôt comme une fièvre ardente, avec les imaginations confuses et pénibles, les craintes, les élans subis et les accablements d'un vrai délire. Manuel voulait Jonquille. Depuis plusieurs jours, c'était son idée fixe, la seule pensée dont son cerveau fut capable. Si cette tension s'était prolongée, le jeune homme en eût certainement fait une maladie. Et qui sait, peut-être sa fièvre d'amour se serait-elle évaporée ainsi, en souffrance corporelle, puis en faiblesse de convalescent. Ses sentiments excessifs s'usent d'eux-mêmes, ils brûlent toute leur huile en un jour. La nuit vint. La mère Salomé allumait des lampes dans la salle basse et mettait le couvert. Manuel, l'air à la fois absorbé et irritable, suivit ses camarades dans la maison. Il s'assit tout seul au coin d'un banc, le plus loin possible de la lumière jaune qui l'offusquait. Tout près de lui, on parlait de jonquilles. C'était Firmin Mitou qui avait tourné la conversation de ce côté, espérant bien que Manuel trahirait de quelque manière ses intentions et son espoir s'il en avait. On demandait à la mère Salomé si Jonquille chanterait ce soir. « Ma foi, je n'en sais rien. Elle n'en fait qu'à sa tête, la petite. »« Elle a raison, » s'écria Firmin. « C'est le droit des jolies filles. »« Pour moi, » ajouta-t-il en jetant à Manuel un regard de défi, « je n'en connais pas de plus jolie d'ici à Morteau et par-delà. »« Tiens ta langue !» murmura Constant. « Pourquoi cela ? Je ne dis que la vérité. » Personne ici ne me démentira. Toi qui es vieux garçon de naissance, tu n'as pas d'œil pour la beauté. Moi, j'ai connu des jolies femmes par douzaines quand j'étais soldat. L'uniforme les attire comme le miel attire les guêpes. Et je ne suis pas plus mal qu'un autre, quoi qu'en dise Constant. Il n'avait pas encore digéré l'affront de tout à l'heure. S'il était moins grand que Manuel, sa moustache était plus longue, il avait une belle chevelure bien plantée, et puis, il était français. C'est un avantage qui en remplace bien d'autres. Ses compagnons, riant, le laissaient dire. Firmin reprit. Et pour ce qui est du chant, en ai-je entendu de ces gazouilleuses au théâtre ou dans les cafés-concerts. Elles ouvrent la bouche en rond, elles se trémoussent, elles se déhanchent, elles se dressent sur la pointe des pieds et ça glousse dans leur gosier comme si elles avaient là une nichée de petits merles. Mais elles ont beau faire, pas une n'a réussi à m'empoigner. Tandis que Jonquille vous a de ses notes. Quand elle chante, il me semble que je suis une guitare et qu'on me pince toutes les cordes à la fois. C'est ça, c'est bien ça, crièrent les autres, enchantés d'une similitude qu'ils n'eussent pas trouvée, mais qui rendait leurs propres impressions. Une guitare, c'est juste, bien tapé, Firmin. Et ses petites façons, reprit l'orateur encouragé par son succès. Sa manière de pencher la tête et de rire en chantant, et de vous regarder vaguement, comme si vous étiez un meuble quelconque, puis d'ouvrir les yeux tout grands, si grands qu'on ne voit plus que ça dans sa figure, et puis cette main joliment posée sur la hanche, comme pour entrer dans une ronde. Mettez les poings sur les côtés, embrassez de vos beaux yeux celui qui vous plaît le mieux. Parole d'honneur, j'ai déjà cru plus d'une fois qu'elle allait faire sa petite révérence et dire enfin lequel de nous lui plaît le mieux. Tout le cercle partit d'un éclat de rire auquel Manuel et Constant seuls ne s'associèrent pas. Manuel se contenait à grand-peine. Il eût pris le bavard à la gorge s'il avait écouté son premier mouvement. Debout, il serrait à deux mains le dossier de sa chaise comme s'il eût voulu y incruster ses doigts. Mais il ne disait rien, un pli se creusait entre ses sourcils. Il se mordait les lèvres avec rage. Quel droit avait-il d'imposer silence à ce discoureur insolent ? Tout à coup, sentant que malgré ses efforts, son exaspération allait éclater, il traversa la salle et sortit. La porte de la cuisine, donnant sur le petit corridor, était entr'ouverte. Une flamme rouge brillait dans le fond et, sur cette clarté, se détachaient deux silhouettes. « Autant lui qu'un autre !» disait la voix aigre de la mère Salomé. « Constant a du moyen, mais il est trop laid. Je veux un gendre qu'on ose regarder. Tu dis qu'il pourra t'entretenir et faire quelque chose pour Pierre en même temps ?»« Il m'en a touché un mot, mais je n'y ai pas prêté grande attention. Mère, ne lui en parlez pas, à présent du moins, cela me fait honte. » Tous ces beaux sentiments, ça met de la soupe dans la marmite et du bois dessous, n'est-ce pas ? Grommela l'aubergiste. Manuel poussa la porte presque rudement. « C'est moi, » dit-il en entrant dans la cuisine. Mais son regard s'adoucit en s'arrêtant sur Jonquille. Qu'elle était jeune et mignonne et fragile malgré ses airs de fierté. qu'elle avait besoin d'un bras robuste pour la soutenir, pour la retenir aussi et pour l'empêcher de choisir des sentiers peu faits pour les pieds des jeunes filles. Il s'approcha d'elle avec tendresse. « Avez-vous réfléchi ? » demanda-t-il à demi-voix. « Je viens chercher votre réponse. Est-ce oui ou non ?» Le cœur lui battait si fort qu'il eut peine à finir sa phrase. « Oui, » répondit-elle. Alors, il sembla à Manuel que cette sombre et banale cuisine s'élargissait, s'emplissait de clarté, que le feu montait en grande flamme triomphante, comme un feu de joie, pour illuminer son bonheur. La mère Salomé disparut, il ne vit plus que Jonquille, au milieu d'une gloire lumineuse, d'un grand embrasement de rayons rouges qui montait autour d'elle, l'enveloppant de chaleur et d'un éclat qui la transfigurait. Elle le regardait, étonnée de son silence. Mais peu à peu, l'impression de rêve qu'il avait saisie d'abord se dissipait. Il prit les deux mains de la jeune fille et, en les touchant, sentit tout à coup la réalité de son trésor. Jonquille était à lui. Sa poitrine lui parut trop étroite pour contenir l'inondation de joie qui l'envahissait. Il aurait voulu crier. Les murs et le plafond ne donnaient point assez d'espace à son bonheur, il lui fallait toute l'étendue du plein air. « Viens !» dit-il à Jonquille en l'entraînant dans la cour. Le ciel, d'un noir velouté, s'étendait au-dessus d'eux et les étoiles silencieuses les regardaient. Le vent de la rivière les enveloppait tous deux et Manuel, en aspirant le souffle froid qui effleurait Jonquille, semblait boire une ivresse étrange. « Tu as dit oui !» s'écria-t-il en la serrant contre lui dans une étreinte violente qui lui fit mal. « Ce n'est pas un caprice, au moins !» « Tu ne vas pas changer d'idée ? Répète-le, Jonquille !» Elle ne dit rien, mais appuya sa tête contre l'épaule de Manuel qu'elle atteignait à peine. Alors, il se pencha et, tremblant de l'offenser, mais incapable de réprimer plus longtemps son désir, effleura de ses lèvres la tête charmante qu'il aurait voulu couvrir de baisers. Jonquille frémit, poussa un long soupir. Ce baiser, le premier baiser d'amour qu'elle eut reçu, faisait courir un frisson magnétique dans tout son être. « Ainsi, reprit Manuel, tu m'aimes mieux que les autres ?»« Mieux que les autres ? » répéta-t-elle avec dédain. « Comme si je les aimais, les autres !»« Et moi ? » fit-il, la respiration presque suspendue par l'anxiété. « Toi ?» Elle s'arrêta, surprise elle-même de la douceur qu'il y avait à dire ce petit mot « toi ». Mais sa sauvagerie capricieuse reprenant le dessus, elle n'acheva pas la phrase interrompue. « Vous faites trop de questions, Manuel, » dit-elle en secouant la tête. « J'ai déjà répondu oui à la première, c'est assez pour aujourd'hui. » Et se dégageant de l'étreinte du jeune homme, elle rentra en courant dans la maison. Il la suivit aussitôt, le cœur plein d'émotions confuses et rapides qui se croisaient en lui comme une pluie de flèches dans l'air. Il espérait rejoindre Jonquille, il avait besoin de lui parler longtemps, mais la porte de la cuisine était close et il n'osa pas l'ouvrir. Il rentra donc dans la salle où le souper était servi depuis un moment. On avait parlé de lui en son absence, il le vit bien au regard qu'on lui jeta. Constant avait profité de cet intervalle pour tisonner habilement les colères qui ne s'allumaient pas assez vite à son gré. Il voulait que Manuel fût chassé avec ignominie. Par là seulement, sa sûreté serait couverte et sa rancune satisfaite. Cependant, le repas s'achevait sans incident. Firmin, qui ne manquait pas de finesse et détestait Constant Loison, le contredisait sur tous les points, tout en gardant à part lui une défiance bien accentuée contre Manuel. Celui-ci ne mangeait pas, restait silencieux et regardait la muraille avec une persistance et une vacuité singulières. Impossible de le provoquer, il ne semblait pas même entendre ce qui se disait autour de lui. « Plus qu'une demi-heure !» s'écria Firmin en tirant sa montre. « Si Jonquille veut nous régaler d'une chansonnette ou deux, il est temps qu'elle commence. » Manuel tressaillit. « Quoi ? Jonquille chanterait ce soir devant ces hommes insolents et bavards qui détaillaient sa beauté avec des yeux avides, qui repaissaient leur imagination grossière de chacun de ses mouvements, qui prenaient pour eux chacun de ses regards, de ses sourires et s'en prévalaient. Ils ne le permettraient pas. Ce jour était sacré pour eux deux. c'était le commencement d'une vie nouvelle que Jonquille devait faire plus retirée et plus modeste, comme il convient à une fiancée. Cependant, Manuel se leva pour aller l'avertir, voulant éviter tout esclandre. Il se croyait parfaitement calme et raisonnable et ne se doutait pas que la jalousie parlait en lui plus haut que la raison. Il rencontra Jonquille dans le corridor. « N'entre pas !» lui dit-il d'un air grave en l'arrêtant. « Ils veulent que tu chantes, ne te montre pas, va chez Pierre !»«
Pourquoi ? » dit-elle avec surprise.
« Mais Jonquille, ne comprends-tu pas ? Tu es à moi tout entière, je ne suis pas disposée à partager !»«
Ah ! » fit-elle lentement, encore plus étonnée que piquée.
« Mais ces pauvres garçons attendent leur brin de musique. Si je ne chante pas, ils boiront pour se donner du montant. »«
Tu as bien refusé l'autre soir quand je t'en suppliais. »«
Et tu étais content, n'est-ce pas ? Allons, Manuel, laisse-moi passer ou je me fâcherai et je te dirai vous. »«
Jonquille, je t'en prie encore, écoute-moi. Je sais bien des choses qu'une jeune fille n'entend jamais. » « Si tu les avais vus tout à l'heure, ces gars insolents qu'il faudrait museler, tu me comprendrais mieux, Jonquille. Ils osent te regarder comme on regarde les chanteuses de café-concert. Ils s'imaginent qu'ils te plaisent, ils t'envoient des œillades. Je les mettrai au beurre noir, leurs œillades !» s'écria-t-il, pâle de jalousie et de colère. « J'aplatirai ces museaux qui se prennent pour des figures. »
Jonquille avait rougi, mais elle se redressa avec fierté.
« Vous faites tort à nos gars, dit-elle. Ils sont peut-être moins bien élevés que les messieurs de fabrique, comme vous et Constant, mais ils ne m'ont jamais manqué de respect. »«
Moi et Constant ? » s'écria-t-il, irrité au plus haut point. « Est-ce que tu me mets dans le même paquet que ce Capon, avec son teint de fromage moisi ?»
Jonquille ne put s'empêcher de rire. Sa colère, à lui, s'était un peu éventée par cette soupape. Il reprit plus doucement.
« Monte chez Pierre, Jonquille, pour me faire plaisir. Je ne suis en paix qu'en te sachant là-haut. »«
Merci de votre confiance, » répliqua-t-elle avec ironie.
Elle glissa à côté de lui sans qu'il pût l'arrêter et entra dans la salle. Une volée de bravos la salua. Manuel la suivit. Il eût cru la perdre s'il avait quitté des yeux une seconde. Debout à côté d'elle, au milieu de la salle, il promena tout autour de lui des regards étincelants qui semblaient dire « Venez me la prendre si vous l'osez !» On faisait silence maintenant. L'attitude de Manuel étonnait chacun. Il se pencha vers Jonquille et lui dit d'une voix basse, mais qui vibrait de passion contenue « Tu m'obéiras !»«
Pas encore » répliqua-t-elle d'un ton de défi.
Et relevant la tête, frémissante de rébellion, elle se mit à chanter. Mais elle n'avait encore jeté que deux ou trois notes quand elle se sentit soulevée de terre et emportée comme par un ouragan. Manuel, ne se contenant plus, l'avait enlevée dans ses bras. D'un bond, il gagna la porte avec sa captive qui, palpitante, indignée, s'abandonnait néanmoins à son étreinte robuste et, secrètement, trouvait même à cette violence une étrange douceur. Il gravit l'escalier tout d'une haleine, serrant plus fort son cher fardeau, sa méchante révoltée. Il sentait la petite tête de Jonquille se renverser sur son épaule, son corps souple s'alanguir, comme épuisé. Elle ne résistait pas. L'aurait-il saisie trop rudement, cette pauvre petite rebelle ? Avait-elle peur de lui ? Il ouvrit précipitamment la porte de la chambre de Pierre. Une lampe brûlait sur le guéridon, à côté d'un livre ouvert. Pierre se souleva avec anxiété et pâlit en voyant Jonquille dans les bras de Manuel.
« Mon Dieu, qu'est-il arrivé ? Es-tu malade, Jonquille ? » s'écria-t-il.
Mais déjà, le jeune homme avait libéré sa prisonnière. Un peu honteux, il allait parler, quand un tumulte violent, un bruit confus de voix et de pas, éclatèrent dans l'escalier. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit toute grande, comme enfoncée par un boulet. Firmin Mitou, gesticulant et haranguant, fit irruption dans la chambre, suivi par les autres contrebandiers, Constant Loison formant l'arrière-garde. Instinctivement, Manuel et Jonquille se rapprochèrent de Pierre comme pour le protéger et restèrent immobiles à côté de son fauteuil. Un grand silence se fit tout à coup. la vue de l'enfant malade, qu'ils aimaient tous, calma subitement ces rudes contrebandiers, ou du moins arrêta pour une minute l'explosion de leur colère. Manuel Vincent, une main posée sur l'épaule de Jonquille, mesurait du regard ses adversaires. « Firmin, dit tout à coup Pierre de sa voix calme et pénétrante, vous pouvez parler, expliquez-vous. » Firmin avança d'un pas, ouvrit la bouche, mais l'exaspération l'étouffait. Il arracha sa cravate rouge, la jeta à terre et saisit son col à deux mains pour le déchirer. « Sors avec nous » cria-t-il à Manuel d'un ton plein de menaces. « Nous n'allons pas faire une scène devant cet enfant. On s'expliquera dehors, entre hommes. »« J'en suis, » répondit fièrement Manuel. Il fit un pas en avant, mais Jonquille le prévint. « C'est à moi, » dit-elle, « Firmin Mitou et vous autres gars, c'est à moi à vous donner les explications. En un mot, ce sera fait. » « Je me suis fiancée ce soir à Manuel Vincent. » Elle mit sa main dans celle du jeune homme et ils se tinrent debout l'un à côté de l'autre. Un beau couple, comme Firmin et ses compagnons furent obligés de le reconnaître en leur fort intérieur. Cette nouvelle les atteignit tous dans leurs espérances plus ou moins avouées. Chacun d'eux, même Arsène, avait rêvé à son tour de conquérir Jonquille. Le coup était rude. Qui donc avait remporté le prix ? Ce nouveau venu dont on ne savait rien, sinon qu'il était ambitieux comme un démon et qu'il voulait se faire chef de bande. Pour commencer, il leur enlevait leur vrai capitaine, leur inspirateur, leur génie et leur bonne étoile. Il fallait punir cet audacieux larron. « Qu'attendez-vous pour lui régler son compte ?» murmura Constant. « Est-ce qu'on va se jeter 6-1, mauvais lapin ?» s'écria Firmin Mitou en le poussant rudement de l'épaule. C'est ainsi que tu entends les batailles, devant une femme et un enfant, encore? Ma foi, je ne sais ce qui me retient de te flanquer à la porte. Ferme ton bec si tu n'as rien de bon à dire. On est d'honnêtes garçons et on se battra l'un après l'autre. Taisez-vous, dit Jonquille. Ils étaient si accoutumés à lui obéir qu'ils se turent et écoutèrent. Firmin Mitou, s'écria-t-elle, n'avez-vous pas honte? Avec votre logique et vos beaux discours, vous n'avez pas un grain de bon sens. J'ai choisi un mari. Ne suis-je pas libre? S'il vous déplaît, n'importe. C'est moi qui l'épouse, n'est-ce pas? Le voilà, il me plaît. Et maintenant, allez-vous-en. Vous vous êtes conduits comme des fous et des furieux, en fonçant la porte, faisant un vacarme à tout rompre. Pierre en sera malade demain. C'est un joli cadeau de noces que vous me faites. Et pour finir, vous restez là comme des canards muets, attendant que Firmin parle pour vous. Eh bien, qu'il parle. Avec lui, on peut s'entendre. » La logique toute féminine de cette allocution fit sourire Pierre, mais elle ébranla les insurgés. Ils se regardèrent les uns les autres, reconnaissant que leur invasion était brutale, en effet. « Jonquille, ne pleurez pas, » dit Firmin à demi-voix. « J'ai été un peu vif, je le reconnais. J'aurais échangé un coup de poing avec plaisir. Les autres vous diront comme moi. »« Allons parler, » fit-il en se tournant vers le groupe de figures, encore sombres et irritées, mais qui, graduellement, prenaient une expression moins farouche. « Ma foi, » dit l'un, « on s'est monté, c'est vrai. Jonquille doit comprendre ça. Voir un quidam la prendre sous son bras comme un parapluie et se sauver avec, c'était fort. » Mais puisqu'elle aime ses manières, n'y a pas à repiper. Elle a le droit de choisir, c'est sûr. Assurément, interrompit-elle, mais il y a une chose que j'aimerais encore mieux. Allons, mes gars, fit-elle doucement, soyez pour moi de vrais frères et de vrais amis. Je vous ai renvoyé tout à l'heure, mais à présent je vous prie de rester. Donnez-nous la main de bon cœur, à moi et à Manuel. Sans vos souhaits, je ne serais heureuse qu'à moitié. La main tendue, elle s'avança vers eux. « Qui veut commencer ? » dit-elle avec un sourire presque suppliant. « Moi, » répondit Arsène, qui fit deux pas à sa rencontre d'un air de gaucherie déterminé. À dire vrai, la déception était moins cruelle pour lui que pour les autres, car il n'avait jamais eu grand espoir de l'emporter sur ses rivaux. Cependant, après avoir pressé la main de Jonquille et serré énergiquement celle de Manuel, en homme qui ne fait rien à moitié, il s'essuya le front et les yeux par la même occasion. « Les pierres sont dures, murmura-t-il en regagnant sa place à l'arrière-plan. Après cela, il y eut un moment d'hésitation. Mais chez Firmin Mitou, la franche générosité de sa nature, peut-être aussi son goût pour les rôles magnanimes, l'emporta tout à coup sur la rancune. Il eut un beau geste et une belle phrase, et prenant la main de Jonquille et celle de Manuel dans la sienne, il s'écria « Camarades, je leur donne ma bénédiction !» Les autres suivirent avec un peu moins d'enthousiasme. Quant à Constant Loison, il s'était esquivé. « Partez maintenant !» dit Jonquille qui riait, mais dont les yeux étaient remplis de larmes. « Vous tarderez tant que la lune sera levée et l'expédition manquée. » « Minute !» s'écria Firmin. « J'oubliais notre premier grief. Les révolutions, ça vous brouille les idées. On ne sait plus pourquoi on a commencé à se battre. Constant Loison prétendait que Manuel voulait se faire chef de bande et nous exploiter, nous et nos sueurs. Réponds un peu à ça, mon gars !»« Constant est habile, » dit Manuel en haussant les épaules. « Il s'est entortillé un peu de vérité avec beaucoup de mensonges. » J'ai songé à m'établir, c'est vrai, j'avais des fonds. Mais quant à me mettre chef de bande, l'idée ne m'en serait jamais venue. Vous êtes tous mes anciens, plus expérimentés que moi. Je n'ai pas encore mes galons. » Ce discours raisonnable et modéré satisfit l'auditoire. « Parbleu, je le pensais bien !» s'écria Firmin Mitou en se tournant vers ses camarades. « On vous a mis dedans. Moi, je me méfiais de Constant Loison, mais vous êtes innocents comme des poupons de 6 semaines. Quand je le reverrai, nous aurons 2 mots à nous dire. Et maintenant, en route pour la gloire. » Toute la bande défila en silence. Manuel, resté le dernier, souhaita le bonsoir à Pierre, puis attira Jonquille tout près de lui. « Je vais gagner ta robe de noces, » dit-il à voix basse, en lui mettant un baiser sur les lèvres pour la première fois.